Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 19 août 2020. On connaît tous le principe du happy end dans le cinéma américain. Quoi qu'il se passe, une invasion extraterrestre, un tremblement de terre, les USA qui sont envahis par des robots qui viennent du futur, une guerre nucléaire, le pays qui est envahi par les Russes, ça c'était dans les années 90, 80, maintenant le pays est envahi par les Chinois, ou même un virus mortel qui se propage à cause d'un singe. Oui, un singe, on n'avait pas poussé la réflexion jusqu'au pangolin à cette époque. En gros, peu importe la catastrophe qui tombe sur le coin de la figure des Américains, à la fin, ils pètent la gueule au robot, mettent le virus au frigo, reconstruisent après le tremblement de terre et partent faire du surf sur la vague d'un tsunami pendant que les extraterrestres se barrent en courant parce qu'ils se rendent compte que la calotte glaciaire est en train de fondre. Bref, à la fin, c'est les Américains qui gagnent. Ça, c'était la fiction. La réalité, c'est la pandémie de Covid qui font s'effondrer des pans entiers de l'économie, le chômage qui double, des entreprises entières au bord du gouffre, des licenciements en masse, un gouvernement qui est incapable de se mettre d'accord et de bosser ensemble pour lutter contre le chaos économique lié à la pandémie, une élection présidentielle qui promet déjà d'être la plus contestée de l'histoire, un président qui a isolé les USA comme jamais dans l'histoire des USA. Et pendant ce temps, le Nasdaq bat son 34e record de l'année et le S&P 500 termine sa séance du 18 août au plus haut de tous les temps. Et les 12 plus gros milliardaires des USA ont atteint une fortune cumulée de 1000 milliards de dollars. Jamais dans l'histoire de la bourse américaine, la distanciation sociale entre Wall Street et Main Street n'aura été aussi grande. C'est donc fait. Hier soir à 22h, lorsque la bourse américaine a terminé sa journée, il y avait comme une odeur d'euphorie, comme une forme de joie d'avoir atteint un nouveau record historique sur le S&P 500. Entre le 23 mars et hier soir, l'indice aura progressé de plus de 50%, un poil mieux que le rendement du 10 ans américain, à peine. Il est évident qu'à chaque franchissement d'un niveau historique, normalement, il y a un mélange de fierté et de plaisir, puisque ce record indique en général une économie qui va bien, ou c'est que le marché est en plein délire. Sauf que là, tout de suite, avec ce qui vient de se passer et ce qui se passe encore, il y a quand même une forte suspicion que l'on soit plutôt du côté du plein délire que de la représentation rationnelle d'une économie en pleine forme. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais disons qu'après ce que l'on a vécu lors du premier semestre 2020, même le plus optimiste des traders qui se serait shooté aux amphétamines 64 fois par jour n'aurait pas pu croire au mois de mars que nous serions de retour au plus haut de tous les temps seulement 5 mois plus tard. Avec un taux de chômage qui dépasse toujours les 10% et des secteurs entiers qui sont complètement hors service, pour ne pas citer l'aviation, les voyages, les hôtels, les croisières, le pétrole, non, jamais on n'aurait pu croire ça possible. Et pourtant, si l'on s'en tient au fait, hier soir, le S&P 500 a donc terminé sa séance quelques points plus haut qu'il ne l'avait fait le 20 février de cette année, alors que la pandémie des chauves-souris et les pangolins n'étaient encore que des brèves de comptoir. C'est donc fantastique, ce n'est que du bonheur. Les plans de soutien, les injections de liquidités et les taux à zéro ont fait leur office. Bon, visiblement, ça n'a pas encore fonctionné dans l'économie réelle, mais Wall Street a bien pris de l'avance et il ne reste plus qu'à que ça redémarre pour de vrai dans la réalité. Mais en attendant, on prend de l'avance. Hier, c'est les chiffres des nouvelles constructions de maisons qui ont permis au marché de battre des records. Encore une fois, le fait de base aura fait son office et les analystes ont été surpris parce que c'était moins pire que prévu et surtout meilleur que lorsque nous étions en confinement et que l'économie était complètement arrêtée. Surprenant, non ? Enfin, toujours est-il que ça aura suffi pour déclencher un nouveau rallye dans la tech avec des hausses de 4% chez Amazon, de 0,8% chez Apple ou encore de près de 3% en ce qui concerne Google qui se rapproche également de ses plus hauts historiques. Sans compter Tesla qui bien sûr prend encore ses 3% journaliers et se rapproche des 2 000 $ l'action. Quoi qu'il en soit, la journée n'était pas explosive, mais suffisante en tout cas pour faire le job. Et puis, Amazon termine au plus haut quand même de tous les temps. Et aussi d'ailleurs, et Jeff Bezos peut retourner compter ses billets dans sa salle de jeu de 7000 m². Pendant que les traders américains oubliaient les gestes barrières et faisaient fi de la distanciation sociale pour fêter les records, en Europe, c'était plutôt la soupe à la grimace. Entre les tensions politiques sino-américaines exacerbées par les nouvelles sanctions américaines contre Huawei, sanctions qui sont qualifiées d'arrêt de mort par certains, tensions et sanctions dont se foutent totalement les investisseurs américains, faut-il le préciser, entre ça et l'euro-dollar qui continue de monter puisque ce dernier est sorti de son range latéral par le haut et semble vouloir aller en direction des 1,20. Les marchés européens semblaient en plein marasme. On a l'impression de vivre dans deux scénarios différents selon le côté de l'Atlantique où l'on se trouve. Aux USA, on anticipe, trop peut-être, un futur brillant et formidable, et en Europe, on se ronge les ongles, on déprime, on parle masque 24 heures sur 24 et reconfinement toutes les 5 minutes. Les pays du vieux continent n'arrêtent pas de se quarantainiser parmi, et on en oublie le fait qu'il faut prévoir l'après-pandémie, le jour où l'on pourra revivre normalement. Bref. Alors que Wall Street caracole de record en record, le reste du monde semble un peu perdu sur le chemin à suivre dans les mois qui viennent. Mais entre vous et moi, ce matin, on s'en fout complètement, on tient notre record et il n'y a que ça qui compte. Actuellement, l'Asie fête le record américain, mais avec parcimonie et de façon homéopathique, un peu à l'image du record d'hier soir d'ailleurs. Le Japon est péniblement en hausse pendant que Hong Kong fait de même. Du côté de la Chine, comme d'habitude, on n'aime pas trop monter parce que les Américains montent. Alors, dans le doute et pour marquer leur différence, les Chinois sont en baisse de 0,3% ce matin et refusent de faire péter les feux d'artifice pour Wall Street. Pendant ce temps, l'or est à 2 000 $ et semble indifférent au comportement du dollar, ce qui est assez étonnant pour être signalé. Il est vrai que le record du S&P 500 en association avec le Nasdaq empêche le métal jaune de profiter de toute la quintessence de la baisse du dollar. Le pétrole a tenté de casser les 43 $ hier, mais il a échoué. Selon les experts, les dernières décisions de l'OPEP n'ont pas satisfait les traders, d'où l'échec de la cassure haussière. Mais je reste convaincu que ça doit finir par démarrer et qu'un matin, on va se retrouver avec un baril bien plus haut que là où nous sommes aujourd'hui, peut-être avec les inventaires du pétrole ce soir. Dans les nouvelles du jour, tout le monde semble concentré sur les discours prononcés durant la convention démocrate. Tous ces discours qui encensent Biden comme président. Biden, c'est le mec qui a sorti les USA de la récession la dernière fois. Bon, ok, il bossait pour Obama, mais si Obama n'avait pas été là, c'est lui qui aurait sorti les USA de la récession. C'est aussi lui qui aurait eu le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, il le mérite à 50%. Hier soir, Clinton a affirmé que Biden est la solution contre le chaos créé par Trump, qu'il a une vraie vision pour l'emploi, lui qui est censé être à la retraite depuis 10 ans, que Biden va résoudre le problème du réchauffement climatique, de l'emploi, des relations avec la Chine et peut-être même trouver un remède contre le cancer. Les démocrates ont également critiqué Trump sur son bilan au niveau de l'emploi en citant les 10% de chômage actuel, en oubliant totalement de préciser qu'avant la pandémie, le taux était 3 fois plus faible. Et puis, on fait parler des gens qui sont hyper crédibles comme soutien, sa femme, la femme de John McCain, aujourd'hui décédée, mais ennemi juré de Trump. Bref, sans vouloir prendre parti, parce que honnêtement, je m'en fous complètement en tant que chroniqueur, dans les deux cas, ça sera facile d'écrire sur l'un ou sur l'autre, ils sont une source inépuisable de conneries en tout genre. Mais disons que la convention démocrate sent l'eau de rose et le bonbon à la fraise, et je suis sidéré que l'on puisse donner le moindre crédit à ce qui est raconté là-bas, alors que ça pue l'hypocrisie et le désespoir de ne pas avoir un vrai candidat. Pendant ce temps, les jeunes Américains se sentent frustrés parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier à l'un ou l'autre des candidats. Tu m'étonnes. Ils ont tous les deux l'âge de leurs arrière-grands-parents et mis à part un qui utilise Twitter à l'excès, on imagine assez mal Joe Biden s'immiscer dans la polémique autour de cet idiot de 6ix9ine pour se rapprocher des jeunes. En résumé, on n'a pas fini de rire avec cette campagne présidentielle au scénario à peu près aussi fouillé et original que la dernière saison de Santa Barbara. Autrement, on notera que Monsieur Draghi, whatever it takes, est en tournée mondiale et que lors de son premier discours depuis qu'il n'est plus patron de la BCE, il a déclaré que l'Europe devait utiliser intelligemment sa dette si elle voulait remonter la pente et qu'il fallait investir dans les jeunes, la recherche et l'innovation. C'est étonnant comme on peut donner des leçons lorsqu'on n'est plus en poste. C'est un peu comme si François Hollande venait expliquer à Macron comment il faut faire pour générer du charisme autour de sa personne. Et puis, il y a le fait que tout le monde trouve super qu'Oracle rachète TikTok, que les chiffres des milliardaires aux USA donnent le tournis et que lorsque l'on entend Trond Grande, le patron du fonds souverain norvégien, on se dit que certains chiffres donnent vraiment le vertige. Le plus gros fonds du monde a perdu 21 milliards cette année et Grande s'attend à pas mal de turbulences cet automne et se demande si le recovery sera vraiment en V ou en W. 21 milliards, c'est énorme, mais au cœur de la crise, on parlait de 153 milliards de pertes. Actuellement, le fonds détient des positions dans 9200 sociétés et cela représente un capital de 214 000 $ par Norvégien. La masse sous gestion est de 1150 milliards de dollars, ce qui relativise tout de même un peu la perte des 21 milliards. Mais il faut bien faire vendre les journaux. Pour le moment, les futurs sont dans le commun et on a l'impression que tout est calme. Presque trop calme. On attend les minutes du FOMC meeting ce soir et les chiffres économiques japonais étaient mauvais ce matin, mais ça n'intéresse absolument personne. Bref, nous sommes au plus haut de tous les temps. Alors moi, je vous dis à demain pour de nouveaux records.